Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour l'émission radio de l'Europe directe de Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Alors l'Union européenne, avec son marché unique de 27 pays, regroupe 23 millions d'entreprises et près de 450 millions de citoyens. Ensemble, ces acteurs contribuent à faire de l'Union européenne l'une des trois premières puissances économiques mondiales, aux côtés des États-Unis et de la Chine, représentant environ 15% du PIB mondial. Alors grâce à une série d'accords de libre-échange, la politique commerciale de l'Union, qui est l'une de ses politiques communes, joue un rôle essentiel dans la création d'emplois. La Commission européenne estime que 38 millions d'Européens, soit un travailleur sur sept, dépendent de ce commerce international. Cependant, depuis le début des années 2000, le commerce mondial a été bouleversé par plusieurs crises majeures. Le changement climatique, bien sûr, la crise financière de 2008, la pandémie de Covid-19 et plus récemment la guerre en Ukraine. Alors, ces événements ont révélé de nouveaux défis pour l'Union européenne, notamment liés à sa dépendance aux importations stratégiques et les tensions commerciales entre les grandes puissances. Alors, cela soulève la question cruciale de la souveraineté économique de l'Europe et des moyens qu'elle a de protéger ses industries tout en respectant les normes sociales et environnementales. Alors pour explorer ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Dros, fonctionnaire européen et conseiller commerce auprès de la représentation de la Commission européenne en France. Monsieur Dros, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez également de publier un ouvrage sur la préparation des concours européens, un sujet sur lequel nous aimerions également pouvoir vous interroger. Alors on va tout de suite se lancer dans le sujet. Vous êtes un spécialiste des questions commerciales. Vous pouvez brièvement nous expliquer ce qu'est la politique commerciale de l'Union européenne.
Oui, tout à fait. Donc, quand on parle de politique commerciale de l'Union européenne, il ne faut pas confondre ça avec le marché intérieur. Donc, le marché intérieur, c'est vraiment les échanges commerciaux, mais aussi les échanges de personnes, les échanges de capitaux, les échanges de services au sein de l'Union européenne. Ici, quand on parle de politique commerciale, on parle d'échanges de l'Union européenne avec les pays tiers. Et donc, c'est très différent. Ceci dit, il y a bien sûr un lien, puisque le commerce extérieur, la politique commerciale européenne est le complément du marché intérieur qui, lui, administre les échanges de biens au sein de l'Union européenne.
Alors maintenant qu'on comprend cette politique commerciale, elle se réalise grâce à des accords commerciaux. Qu'est-ce qu'un accord commercial et comment, finalement, l'Union européenne négocie et vote ces accords ?
Donc, les accords commerciaux, ce sont un de nos multiples instruments en matière de politique commerciale. Alors, comment ça se passe pour la négociation ? Tout commence par un mandat qui nous est donné par le Conseil de l'Union européenne qui va nous demander de négocier au nom de l'Union européenne.
Ce sont les États, alors ?
Ce sont les États qui nous donnent ce mandat. Ce mandat nous indique quels sont les objectifs de la négociation. Et donc, fort de ce mandat, nous allons négocier avec les pays tiers. Tout au long de la négociation, nous sommes en contact étroit et régulier avec à la fois le Parlement européen et notamment au sein du Parlement européen, la commission en charge des affaires de commerce, c'est-à-dire la commission INTA. Et également, nous sommes en contact très étroit avec les États membres que nous voyons régulièrement, que nous débriefons régulièrement et à qui nous expliquons l'avancée des négociations.
Alors, il y a des accords, c'est toute la difficulté, hein, des accords qui sont sur des domaines qui sont de la compétence, ce qu'on dit exclusive de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui négocie pour elle, et il y a des éléments de cette négociation qui vont être encore de la compétence des États, ce qui fait qu'on appelle ça des accords mixtes, mais ce qui fait par exemple que le CETA, l'accord avec le Canada, est un accord qui s'applique depuis 7 ans, et pourtant il n'a pas encore été approuvé par la France. Vous pouvez nous expliquer un peu cela ?
Il faut vraiment distinguer les accords qui sont 100% dans la compétence exclusive de l'Union européenne et qui sont donc des accords, je dirais, pure Union européenne et qui ont un système de ratification uniquement au niveau de l'Union européenne par le Conseil et le Parlement. Et d'autre part, vous avez les accords mixtes, dont le CETA, c'est-à-dire l'accord entre l'Union européenne et le Canada, est un très bon exemple, qui, eux, comprennent des clauses dans le domaine pure Union européenne, dans le domaine de compétences exclusives de l'Union européenne, comme par exemple les clauses en matière de commerce, et des clauses qui vont être dans le domaine des compétences partagées entre l'Union européenne et le Canada. Et donc, quand on est dans le domaine des compétences partagées, ces accords mixtes doivent être ratifiés à la fois au niveau de l'Union européenne, encore une fois par le Conseil et par le Parlement européen, et par chaque État membre selon son mode de ratification propre. Alors, comment ça marche, la ratification d'un accord en France ? Donc la France, qui est un État centralisé, qui n'est pas un État fédéral comme par exemple la Belgique ou d'autres...
Ou l'Allemagne, oui.
Ou l'Allemagne, qu'on connaît bien ici à Strasbourg, a un processus centralisé où la ratification se fait par le Parlement national. Alors, petit détour par les cours de sciences politiques et d'institutions françaises. Comment on peut ratifier, donc, par exemple, un accord comme celui du CETA ? Eh bien, nous avons d'abord une première lecture à l'Assemblée nationale. C'est la première étape de la ratification. Et en ce qui concerne le CETA, la ratification a été votée par l'Assemblée nationale. C'est la première lecture. On passe ensuite au Sénat, le texte est envoyé au Sénat, et là, le Sénat, au début de cette année, donc en début de 2024, a refusé la ratification, a voté contre la ratification de l'accord UE-Canada, le CETA. Et donc, nous avons ce qu'on appelle une navette parlementaire, c'est-à-dire que le texte va revenir sur la table de l'Assemblée nationale. Et c'est le gouvernement qui décide quand est-ce que ce texte retourne sur la table de l'Assemblée nationale pour un deuxième vote. L'Assemblée nationale, ensuite, peut voter de manière unique et indépendante. Disons que il n'y a pas besoin d'avoir un accord du Sénat dans cette deuxième lecture. L'Assemblée nationale peut décider de ratifier l'accord CETA entre l'UE et le Canada. À noter, peut-être, la question que vous posez peut-être, c'est mais alors, quand est-ce qu'on aura ce vote ? Eh bien, ça appartient bien sûr, la décision appartient aujourd'hui au gouvernement français, qui peut, sachant que...
Et qu'est-ce qui pourrait faire changer aussi le vote ? Puisque le Sénat a voté contre, aujourd'hui c'est l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale très divisée, qu'est-ce qui pourrait les inciter à voter ce texte ?
Donc, évidemment... Nous, ce qu'on essaye de faire valoir, c'est qu'on a derrière nous maintenant 7 ans d'application. Donc, s'il y a des dangers, ils ont dû se matérialiser. Si, à l'inverse, il y a des succès, ils ont dû se matérialiser. On doit voir aujourd'hui, après 7 ans d'application, vraiment les effets de cet accord sur le terrain. Et en fait, afin de pouvoir identifier ces bénéfices ou ces craintes, si elles se sont matérialisées, la Commission a commissionné un contractant, qui est un cabinet de conseil, qui va effectuer une étude indépendante sur le bilan du CETA. Donc c'est une étude qui a commencé maintenant depuis plusieurs mois et qui devrait se conclure au début de l'année 2025. Et nous pensons que cette étude indépendante va pouvoir donner des éléments vraiment à tous les Européens, tous les citoyens européens, mais aussi spécialement à notre représentation nationale pour savoir si cet accord est bénéfique ou non pour la France et pour l'Europe plus généralement.
Alors l'une des critiques fréquentes que l'on entend sur ces accords commerciaux est souvent leur manque de transparence, notamment lors de leurs négociations. Monsieur Drouze, pouvez-vous nous expliquer comment se déroule, comment s'organise la négociation d'accords commerciaux ?
Alors, sur la question de la transparence, je dois dire que la Commission européenne est une des organisations internationales les plus transparentes du monde. On est vraiment extrêmement transparent sur les questions commerciales. Ça vient vraiment de l'influence des pays nordiques pour qui la transparence est quelque chose d'essentiel. Et donc, cette transparence qui est vraiment effective dans les pays nordiques, ce virus de la transparence, j'ai envie de dire, a été transmis à l'Union européenne, qui aujourd'hui est extrêmement transparente. Alors, comment ça se concrétise dans les faits ? Eh bien, je dirais que la première chose, par exemple, si on parle du CETA, c'est que cette étude indépendante va être menée en toute transparence. Et donc, il y a un site, par exemple, qui est consacré à cette étude. Et toutes les parties prenantes, que ce soit des associations, des entreprises et même des citoyens, peuvent faire entendre leur voix sur ce qu'ils pensent de l'accord CETA. Un autre exemple, c'est concernant les négociations. Comme vous le dites, certaines personnes peuvent penser que les négociations ne sont pas publiques et se passent derrière des portes fermées et donc à cacher des citoyens. Eh bien, après chaque round de négociation, chaque période de négociation, vous avez sur le site de la Commission européenne un rapport sur ce round extrêmement complet. Donc ça fait plusieurs pages et on détaille vraiment sujet par sujet sur les biens, sur les services, sur les investissements, sur la propriété intellectuelle, dans chacun des chapitres de l'accord, quelles ont été les avancées, quels ont été les points de blocage et où on en est aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour les citoyens s'ils veulent savoir où on en est dans la négociation d'un accord. Je dois même dire que c'est technique, donc les spécialistes apprécient.
La deuxième crainte qui arrive aussi, c'est souvent aussi, on met en cause ces accords internationaux pour mettre en difficulté certains secteurs, certains pans de l'économie, comme celle des agriculteurs, comme on les a entendus lors des manifestations de janvier-février de cette année. Alors, est-ce qu'il y a raison de craindre, selon vous, ces accords internationaux, ces accords commerciaux ?
Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ces accords bénéficient grandement aux agriculteurs, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Union européenne est une grande puissance agricole. Nous avons un très important surplus agricole. On parle de 70 milliards d'euros. C'est énorme. La force de notre agriculture est une de nos plus grandes forces à l'exportation. Donc, ne jamais oublier que les accords commerciaux bénéficient aussi à notre tissu agricole, car ils leur offrent de nouveaux débouchés. Ensuite, en matière défensive, il peut y avoir des secteurs qui peuvent se sentir parfois dans une situation de risque face à la négociation de tels accords. Donc je pense par exemple aux éleveurs bovins dans le cadre du Mercosur. Dans le cadre du Mercosur, nous avons mis en place vraiment toutes les mesures de manière à ce que cet accord n'impacte pas le secteur de l'élevage bovin. Notamment, nous avons mis en place un quota de 99 000 tonnes qui permettra vraiment de protéger notre
marché. On limite le nombre, la quantité d'importation.
Voilà. On limite la quantité d'exportation vers l'Union européenne, sachant que 99 000 tonnes, ça représente un petit steak par Européen et par an. Et donc, pour nous, ça représente une quantité vraiment très raisonnable qui ne devrait pas engendrer de perturbations sur le marché du bœuf européen et donc qui devrait être indolore pour les éleveurs européens.
Alors revenons sur ces systèmes de protection. Là, on voit que l'Union européenne essaie de défendre sa propre industrie, notamment par rapport à l'exportation, cette fois-ci de la Chine, de ses véhicules électriques. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? L'Union européenne a donné son accord pour augmenter les droits de douane sur certains véhicules. Comment, finalement, l'Union européenne en est arrivée à cette décision?
Alors, donc, tout a commencé avec le discours sur l'état de l'Union par la présidente de la Commission qui a annoncé l'ouverture de cette enquête anti-subvention sur les véhicules électriques chinois. Suite à cette annonce, lors du discours sur l'état de l'Union, en octobre 2023, nous avons ouvert cette enquête. Quand on ouvre cette enquête, commence une période de 9 mois d'intense enquête sur à la fois les subventions en Chine, mais également sur l'état de l'industrie européenne du véhicule électrique. J'ai participé d'ailleurs à cette enquête, et donc nous commençons par une phase écrite où nous envoyons des questionnaires à la fois au gouvernement chinois, mais aussi à certains producteurs chinois qui ont été sélectionnés, et donc ils nous répondent à cette enquête. Nous vérifions ensuite la véracité des documents, à la fois sur pièce, mais aussi sur place, puisque nous effectuons des audits chez les producteurs chinois pour vérifier si les informations qu'ils nous ont transmises sont exactes. De même, nous effectuons des audits et une vérification des documents pour les producteurs européens.
Et donc, quel est le constat qui a été fait ?
Donc, ce qu'on a constaté, en fait, dans cette enquête, c'est qu'il y avait des subventions importantes entre 10 et 30% suivant les entreprises qui ont été mises en place par le gouvernement.
C'est des subventions à l'exportation, c'est ça ?
Alors, ce ne sont pas forcément des subventions à l'exportation, ça peut être également des subventions à la production. Et ces subventions peuvent parfois prendre des formes assez diverses. Ça peut être par exemple, si vous pouvez bénéficier d'un terrain à un coût très avantageux pour implanter votre usine, si vous pouvez bénéficier d'un financement à un coût en dessous de celui du marché, si vous pouvez bénéficier, tous les bénéfices que vous pouvez tirer peuvent constituer des subventions. Donc ça n'est pas forcément une injection de liquidité, une injection d'argent direct. Ça peut être aussi quelque chose qui est plus indirect. Et donc nous calculons le montant de la subvention en fonction de ce que nous observons sur le terrain. Et aujourd'hui, en fait, nos calculs sur différentes entreprises nous ont conduit à des chiffres. Donc, comme je l'ai dit, l'entreprise la moins subventionnée, c'est l'entreprise Tesla, 7,8% de subvention. Et l'entreprise la plus subventionnée bénéficiait dans nos calculs de 35,3% de subvention.
Et donc là, ce qui a été décidé, c'est donc d'augmenter les droits de douane sur ces véhicules. Est-ce qu'on peut parler que, on peut dire que l'Union européenne, avec cette décision, est passée dans une nouvelle ère du commerce international ? Est-ce que ça marque un changement, cette décision ?
La politique anti-dumping existe depuis de nombreuses années. La politique anti-dumping et anti-subvention. Donc là, ce qu'on appelle généralement la défense commerciale. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour de nombreux produits. Ça peut être pour les vélos, par exemple.
On se souvient, par exemple, du photovoltaïque de l'acier qui avait posé aussi des difficultés à l'époque avec la Chine.
Je dois dire qu'ici, la spécificité de cette enquête, c'est qu'elle touche tout le monde, dans le sens où c'est un... En général, on travaille beaucoup sur des produits industriels. Ici, on travaille sur un bien qui est beaucoup plus à destination du grand public. L'ampleur aussi de l'enquête, avec... le nombre d'entreprises qui sont concernées à la fois dans l'Union européenne et en Chine fait que c'est une enquête un petit peu extraordinaire. Mais je dirais que sur les principes, je ne parlerai pas de guerre commerciale, par exemple. En fait, ici, l'idée, c'est vraiment de rétablir une concurrence saine entre l'Union européenne et la Chine sur des bases égales, c'est-à-dire mettre tout le monde sur un pied d'égalité, compenser ses subventions, mais pas non plus de protectionnisme.
Mais la Chine a quand même annoncé quelques représailles. On parle du cognac, on parle aussi du porc allemand, danois, qui sont plus des grosses industries dans ces secteurs-là. Est-ce qu'il y a des craintes de représailles ? Est-ce qu'on ne rentre pas plutôt dans une guerre, cette fois-ci commerciale, entre les deux pays, j'allais dire, entre l'Union européenne et la Chine ?
Donc nous, de notre côté, on a une enquête qui est très objective et qui respecte les règles du droit international et donc celles de l'OMC. De notre côté, on a juste, en fait, un outil technique qui consiste à compenser les subventions chinoises à l'entrée dans l'Union européenne. Il est vrai que la Chine a ouvert trois enquêtes, une sur ce qu'on appelle les brandies, et donc qui inclut pour 90%, ce sont les cognacs, mais ça inclut aussi l'armagnac et d'autres alcools que je recommanderais plus ou moins de l'Union européenne. Mais aussi une enquête sur les produits laitiers et une enquête sur le porc que vous avez très justement mentionné. L'Union européenne a tout de suite dénoncé ces enquêtes qui semblaient tout à fait infondées au vu des chiffres et des faits que nous avions en notre possession. Nous avons donc immédiatement décidé d'ouvrir une plainte à l'OMC concernant l'ouverture d'une enquête sur les produits laitiers. Et suite à la mise en place de droits provisoires dans l'enquête sur les brandies, c'est-à-dire le cognac, nous avons également décidé de saisir l'OMC.
Alors, ce qui nous amène cette fois-ci sur un autre sujet, puisque vous êtes également un spécialiste des préparations des concours européens. Vous avez récemment publié un ouvrage qui s'appelle « Préparer les concours européens ». Vous êtes enseignant à Sciences Po, notamment pour également préparer les étudiants à ce type de concours. J'aimerais, en guise d'introduction par rapport à ce thème, comment finalement on devient fonctionnaire européen comme vous ? Quelle est la procédure, je dirais, générale pour devenir fonctionnaire européen ?
Alors d'abord, c'est la flamme. Il faut être animé quelque part d'un esprit européen, d'une envie de travailler pour l'Union européenne. Et quand on a ça, ensuite, il faut, pour devenir fonctionnaire européen, passer un concours. Donc c'est vraiment une fonction publique qui a été inspirée par la fonction publique française. Et donc de même que pour rentrer dans la fonction publique française, il est nécessaire de passer un concours, de même, pour rentrer dans la fonction publique européenne, il faut passer un concours. Maintenant, ceci dit, tous les collègues de la Commission européenne, tous les collègues des institutions européennes ne sont pas fonctionnaires. Donc on a également une grande partie des collègues qui sont par exemple des agents contractuels qui sont recrutés sur contrat. Donc ce que j'explique dans ce livre également, c'est toutes les portes d'entrée qui sont multiples pour rentrer dans les institutions européennes. Et notamment, ce que je conseille aux jeunes, qu'ils soient encore étudiants ou qu'ils soient jeunes diplômés, c'est de ne pas hésiter à candidater pour un stage au sein des institutions européennes, notamment au sein de la Commission, où nous accueillons chaque année environ 1000 stagiaires dans tous nos services, que ce soit nos services en charge des affaires internationales, nos services en charge du commerce international, mais aussi agriculture, concurrence, macroéconomie. Partout, nous accueillons des stagiaires et en général, c'est vraiment une expérience de 5 mois très enrichissante. En plus, ces stages sont bien rémunérés, un peu plus de 1000 euros par mois. Et donc, c'est vraiment une opportunité à saisir pour tous les jeunes diplômés et même les étudiants qui remplissent les conditions.
Alors, quels sont les métiers que l'on peut faire? Vous avez parlé là des différents secteurs, activités. Quels sont les métiers que l'on peut faire au niveau des institutions européennes et notamment la Commission? Est-ce qu'il faut être juriste spécialement, avoir fait Sciences Po? Il y a d'autres possibilités?
Alors, je dirais que une grande partie de nos collègues se répartissent, je dirais, en 4 grandes catégories. Il y a d'abord les gens qui ont étudié, par exemple, à Sciences Po ou qui ont étudié dans une fac de sciences politiques, qui sont plutôt, je dirais, des généralistes. Ensuite, nous avons, deuxième élément, tous les collègues qui ont étudié le droit. Donc on a vraiment une grande équipe, une grande partie de nos collègues qui ont étudié le droit et qui d'ailleurs ne travaillent pas forcément toujours sur des sujets très juridiques. Ensuite, nous avons les économistes. Beaucoup de collègues sont soit issus d'une fac d'économie, soit d'une grande école de type HEC, ESSEC ou le SCP. Et enfin, nous avons certains collègues qui sont ingénieurs, donc plus scientifiques. Donc soit ils ont étudié à la fac, soit ils ont étudié dans une grande école d'ingénieurs.
Et donc les métiers sont quand même très...
Métiers sont très variés. Et les formations sont très variées. En fait, il n'y a pas vraiment de profil typique. Ce qu'il faut, c'est vraiment passer le concours. Et le concours est vraiment neutre par rapport aux études.
Alors, quelle est la spécificité alors, de ce concours? Comment se préparer à ce concours, hormis le fait d'acheter votre ouvrage?
Alors, je dirais que la spécificité, c'est un concours qui se passe en une demi-journée et chez soi. Donc c'est déjà très pratique pour passer ce concours.
Donc, ça a bien changé, ça.
Oui, parce que quand on pense au concours, notamment, on a tous passé un jour un concours, ne serait-ce ou un examen, et on se souvient donc de ces grandes salles d'examen. Donc tout ça, c'est fini. Pour les concours européens, on est sur son ordinateur, chez soi, et dans son fauteuil, et on peut vraiment passer ça, je dirais peut-être pas tranquillement, mais au moins peut-être un petit peu plus confortablement que dans ces grandes salles d'examen. Ensuite, aujourd'hui, dans la formule du concours, il y a, je dirais, 6 épreuves. Les 3 premières épreuves, ce sont des QCM à choix multiples sur le raisonnement, pour tester le raisonnement du candidat. Et donc, on va tester l'aptitude du candidat à raisonner sur des textes, c'est le raisonnement verbal, à raisonner sur des chiffres, c'est le raisonnement numérique, et à raisonner sur des formes géométriques, c'est le raisonnement abstrait. Donc ça, c'est les 3 premières épreuves sur lesquelles il suffit, en général, d'avoir la moyenne. La 4e épreuve, le 2e groupe d'épreuves, c'est la connaissance de l'Union européenne. On va avoir des QCM pour tester la connaissance des institutions, des politiques, de l'histoire européenne. Troisième type d'épreuve, une nouvelle épreuve qui va être mise en place bientôt, ça va être les tests de compétences digitales pour savoir si vous maîtrisez les outils informatiques. Et enfin, dernière épreuve, et c'est la seule qui n'est pas sous forme de QCM, c'est une épreuve écrite qui est une épreuve qui est un test écrit qui va tester votre aptitude à la communication. Et vous avez un corpus de texte et vous avez des questions auxquelles vous devez répondre. Il ne faut pas avoir de connaissances particulières. Vraiment, toutes les informations sont dans le texte, mais il faut avoir une aptitude à la communication écrite, une écriture fluide, claire, structurée, de manière à pouvoir vraiment répondre au mieux à ces questions.
Et il y a une épreuve linguistique également ?
Alors, ces épreuves se passent en deux langues qui sont au choix. Vous pouvez vraiment choisir deux des 24 langues officielles de l'Union européenne comme il vous plaît. Si par exemple vous souhaitez prendre le polonais et le finnois, vous pouvez prendre ce choix-là. Si vous pouvez plus traditionnellement, pour les Alsaciens, choisir l'allemand et le français, eh bien c'est un choix aussi tout à fait acceptable.
Quel conseil, cette fois-ci, vous, en tant que spécialiste, vous donneriez à un de nos auditeurs, à des étudiants, à des jeunes qui souhaitent se postuler à ce concours ?
Alors, la première chose, c'est de suivre le site EPSO, E-P-S-O, sur lequel sont publiés ces concours. Donc vraiment, suivez ce site et regardez tous les 2-3 mois, ce qui se passe là-bas. Notamment, EPSO annonce à l'avance les concours qui vont sortir. Quand les concours sont publiés, vous avez une notice du concours. Et cette notice est vraiment un élément très important. Donc, elle va vraiment vous donner, elle va faire foi et elle va vous donner les détails des épreuves pour ce concours, mais aussi toutes les règles pour l'éligibilité à ce concours. Est-ce que vous êtes éligible ou non ? Est-ce que vous remplissez les conditions pour passer ce concours ? Donc ça, c'est vraiment très important, suivre le site EPSO et lire cet avis de concours qui va être publié sur le site EPSO. Premier conseil. Deuxième conseil, essayez de passer vraiment tous les concours que vous pouvez, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un concours et c'est pas tous les jours qu'il y a un concours qui vous convient. Donc, si vous voyez qu'il y a un concours qui peut vous convenir, même vous auriez tendance à vous dire « oui, mais c'est pas tout à fait le bon moment, j'aimerais finir peut-être mes études avant ». Non, si vous êtes éligible, passez le concours, parce que réussir le concours, ça vous donne droit à être mis sur une liste de réserve qui va ensuite durer peut-être un an, deux ans, plusieurs années. Et donc, ça ne veut pas dire que vous allez directement intégrer les institutions européennes. Donc, ne pas hésiter à saisir toutes les opportunités, mais ne pas non plus passer le concours en dilettante. Il faut un petit peu se préparer. Et là, je dirais, ce serait mon troisième conseil, préparez-vous sérieusement, mais il n'est pas nécessaire de passer non plus un temps infini. Et d'ailleurs, il n'est pas conseillé de passer un temps infini, parce que je vois parfois des étudiants, des préparationnaires, qui passent tellement de temps sur ce concours qu'à la fin, quand ils sont en face des épreuves, quand ils sont le jour J à passer le concours, ils arrivent fatigués, ils arrivent peut-être en perte de motivation, ils n'ont plus vraiment l'envie de répondre à ces QCM. Et donc, gardez vraiment cette envie, gardez votre enthousiasme, gardez votre énergie pour le jour du concours.
Alors, merci Nicolas Drosse d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle donc qu'on peut retrouver votre ouvrage « Préparer les concours européens à la documentation française ». Donc, moi, je le conseille, je vois qu'il y a plein d'exemples pratiques dedans où on peut s'entraîner. Mais on va suivre votre conseil, ne pas faire que ça avant de passer son concours. Merci encore pour votre participation à notre émission.
Merci beaucoup. J'étais ravi de pouvoir vous parler, de m'entretenir avec vous. Je suis né à Strasbourg et c'est vraiment toujours un plaisir de revenir ici. Merci beaucoup.
À bientôt.